Voici le texte liturgique pour ce 12e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, c'est par Jésus-Christ que nous avons une si grande confiance en Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables d'avoir de nous-mêmes aucune bonne pensée. Comme venant de nous-mêmes, et c'est Dieu qui nous en rend capables. C'est lui aussi qui nous a rendus propres à être les ministres de la nouvelle alliance, non par la lettre, mais par l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, est entouré d'assez de gloire pour que les fils d'Israël ne puissent fixer leur regard sur la face de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat fût passager, comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas revêtu d'une gloire supérieure? Car si le ministère de la loi, ministère de condamnation, a été néanmoins glorieux, le ministère de la justification le sera incomparablement davantage. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Car je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez, n'ont pas entendu. Et voici qu'un docteur de la loi s'est enlevé, lui dit pour l'éprouver, maître, que ferai-je pour posséder la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Qui lisez-vous? Il répondit, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. Et Jésus lui dit, vous avez bien répondu, faites ceci et vous vivrez. Mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit un homme, descendait de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent et l'ayant chargé de coups, se retirèrent le descendant à demi-mort. Or il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. De même un lévite étant venu dans ce lieu, s'approcha, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, et le voyant fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, après y avoir versé de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à l'hôte et lui dit, « Ayez soin de cet homme et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois vous semble avoir été le prochain de l'homme qui tomba entre les mains des brigands ?» Le docteur répondit, « Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi, allez, faites de même. » Veuillez vous asseoir. Alors d'abord, j'oublie, ce mercredi, donc j'ai annulé le cours de doctrine, parce qu'on va avoir trop de travail pour faire les derniers préparatifs pour la nouvelle chapelle. Donc il n'y aura pas de cours ce mercredi, je prendrai les cours sur les actes du magistère le mercredi suivant, je crois que c'est le 21. Donc n'oubliez pas que jeudi, c'est la grande fête de l'Assomption, donc ce sera une messe, à partir de jeudi, donc une messe d'obligation. Donc à partir de jeudi, tous les dimanches et fêtes d'obligation, la messe n'aura plus lieu ici, mais aura lieu à Tanus, la chapelle de Dame Marie. Donc, dont on parlera, il faut bien faire les distinctions ici, c'est l'oratoire Dame Marie. Là-bas, ça sera la chapelle Dame Marie, ou la cathédrale, la basilique, comme ça comme vous voulez. Non. La chapelle Dame Marie, donc à partir de dimanche, de jeudi, et tous les dimanches et fêtes d'obligation, la messe aura lieu là-bas. Donc dimanche, ce jeudi, il y aura donc messe à 10h. Essayez, je sais bien que c'est compliqué, il faut absolument que nos fidèles reprennent certaines habitudes. Et c'est ça, c'était le bon côté des Américains, tout le monde était là une heure avant pour les confessions. Il faut faire un effort, deux efforts à faire, pour qu'on puisse commencer les messes à l'heure, ce qui est aussi important, surtout pour les familles qui ont des enfants. Donc première chose à faire, premier effort à faire, c'est que les gens viennent à l'avance pour les confessions. Moi, j'essaie d'être là une heure avant. Donc, essayez d'être là pour ceux qui veulent se confesser, qui viennent de loin. Je sais bien que c'est compliqué. Vous venez plus à l'avance pour qu'il y ait le temps de faire toutes les confessions. Deuxième chose, que les gens qui habitent tout proche n'aient pas se confesser le dimanche, mais qui viennent se confesser dans la semaine. Quand je suis là, il y a par exemple le samedi ici, il passe un coup de téléphone, il va être sûr que je suis là, ils viennent se confesser ici pour que de telle façon, qu'autant que possible, autant que faire se peut, je puisse commencer les confessions, la messe à l'heure. Bon, c'est un peu compliqué, un petit peu qu'on se mette d'accord. J'ai eu des cas en chapelle américaine, entre autres, les parents, les fidèles s'étaient mis d'accord. Monsieur l'abbé, vous terminez les confessions. Une fois qu'elles sont terminées, on commence la messe. Je veux bien faire ça, mais c'est... Il y a le pour et le contre. Le contre, c'est que parfois les messes peuvent commencer très en retard, ce qui n'est pas non plus idéal. Donc, parlez-en un petit peu avec vous, je suis ouvert là-dessus. Je pense que c'est quand même l'idéal qu'on commence les messes à l'heure. Donc, je dis messe à 10h. Ensuite, nous aurons le repas, non pas tiré du sac, mais un repas champêtre, donc qui vous sera offert par la maison. Et donc, vous n'avez rien à amener, on vous prépare tout. C'est Ghislain, notre cuisinier professionnel, qui va vous faire un repas typique d'Occitanie sur place, donc à côté de la chapelle de Tanus. Pour ceux qui ne savent pas comment aller à la chapelle, donc j'ai mis des petits papiers, j'espère qu'il y en a encore, ici, dans la petite corbeille à l'entrée de la chapelle, avec explication pour y aller. C'est un quart d'heure d'ici, c'est sur la voie rapide, sur la 88, je crois, de Rodez à Albi. Donc, on aura le repas qui suit, puis ensuite nous aurons la procession de la Sainte Vierge. Nous irons en procession depuis la chapelle jusqu'à la croix qui est sur la petite route qui va à la chapelle. Il y a une croix à peu près 450 mètres, je crois. Donc, on ira en procession en chantant le chapelet, ou en disant le chapelet, en chantant des hymnes à la Sainte Vierge. On aura des petits livrets pour ça. On fera donc une... Je ne sais pas encore, sans doute on fera à la croix qui est sur le bord de la route, on fera à ce moment-là sur place la consécration à la Sainte Vierge qu'on doit faire, la consécration du pays selon la formule du roi Louis XIII. Et ensuite il y aura salut, Saint-Sacrement, et nous finirons par un concert. Donc j'ai un ancien paroissien de Nantes, Clément Perrin, qui est un pianiste virtuose, enfin, ce qui est. Il y a pratiquement un niveau professionnel et il nous donnera 8 nocturnes de Chopin. Donc, c'est un spécialiste de Chopin. Donc, on finira par un concert. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, monsieur l'abbé, est-ce qu'il faut amener quelque chose? Non. Vous n'avez rien à amener pour le repas, tout est prêt. Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Je refuse catégoriquement de mettre un prix à payer. C'est absolument impossible, je compte tous mes principes pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise de venir. Bon, là, on mettra une boîte et puis ceux qui veulent mettre un demi-lingot d'or dans la boîte, eh bien, ils mettront un demi-lingot d'or dans la boîte. Ceux qui veulent mettre une pièce de 10 centimes, ils mettront une pièce de 10 centimes dans la boîte. Voilà. Et pour qu'on puisse éventuellement couvrir un peu les frais quand même. Alors, que j'oublie. Alors, au niveau du parking, la chapelle est pratiquement terminée. Je pense que nous aurons même le vitrail. Donc un vitrail magnifique qui a été commandé à Andorre, qui était une sérigraphie, c'est-à-dire c'est pas un vitrail véritable parce que ça coûte des prix exorbitants. J'ai choisi comme vitrail le plus beau vitrail du Moyen-Âge, à savoir la Vierge à l'Enfant de Notre-Dame de la Belle Verrière, le plus beau vitrail de Chartres. Donc il sera sur le côté, sur une chevenette qui est là pour donner un peu de lumière à la chapelle. Donc, au niveau du parking, le parking n'est pas entièrement terminé parce qu'un professionnel qui devait faire un travail ne l'a pas fait et du coup, on n'a pas pu finir l'accès au parking. Alors, pour ceux qui connaissent, quand vous arrivez à la chapelle, au groupe de maisons, la propriété de Ghislain et Laura qui nous accueillent, juste après leur maison d'habitation, il y a un portail. Vous pourrez prendre ce portail, on a aménagé quelque chose là, vous ferez tout le tour en voiture pour aller vous garer sur un parking qui est déjà prêt derrière. On travaille avec ce qu'on peut. On n'a pas complètement terminé les travaux, entre autres au sous-sol. Le sous-sol n'est pas complètement terminé, cependant les toilettes du sous-sol seront utilisables. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je pense que j'ai tout fait. J'ai oublié. Bon, merci aussi, bien sûr, à tous les bienfaiteurs. Parce que il faut finir. Le miracle, c'est qu'on ait pu pratiquement faire cette chapelle sans faire d'emprunt. Faut que vous sachiez que c'est impossible pour un prêtre de faire d'emprunt. Je vais voir une banque en leur demandant, voilà, j'ai besoin de 100 000 euros pour faire une petite chapelle. Ils me disent, monsieur l'abbé, votre fiche de paye, j'en ai pas. Ah, et vous avez combien à mettre? J'ai rien du tout. Bon, au revoir monsieur, allez à la banque suivante. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire d'emprunt et c'est un vrai miracle, tout a pu être payé, aucune dette. Par contre, il ne s'est pas encore complètement fini de payer. C'était payé jusqu'à présent. Il y a encore les frais du parking. Donc merci à tous ceux qui continuent de nous aider. Nous avons reçu des dons cette semaine qui vont nous aider à payer les frais de parking. Il y a, je crois, 450 tonnes, c'est ça ? 450 tonnes de cailloux à mettre. Heureusement, la carrière est juste à côté, mais enfin, quand même. Donc merci encore une fois à tous ceux qui continuent de nous aider. Souvent, je ne peux même pas vous remercier encore une fois parce que je n'ai même pas les noms. Et l'argent arrive directement en compte sans les noms. Merci à tous ceux-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui a une importance toute particulière. Parce que c'est l'évangile qu'on utilise pour expliquer quelque chose de fondamental, détesté par l'Église moderne, à savoir le sens caché des évangiles. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous le savez, ne va pas parler en expliquant directement la doctrine à ses fidèles. Il utilise des allégories, qu'on appelle des paraboles. La parabole, c'est une allégorie. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie ? Une allégorie, c'est un texte qui représente quelque chose d'autre. C'est-à-dire, typiquement, une allégorie, c'est un texte de l'Ancien Testament qui va représenter quelque chose qui va arriver au Nouveau Testament. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, dimanche dernier, va faire un miracle, aujourd'hui il va expliquer une parabole, la parabole du bon samaritain, et cette parabole signifie quelque chose. Bon. Cette signification, c'est pas de la poésie, contrairement à ce que disent les modernes. C'est pas une invention de l'Église. Dieu a donné à des personnes déterminées des dons particuliers pour interpréter, justement, donner ce sens caché de l'Évangile. Ceux qui ont reçu ce don, ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, il y en a des centaines. La plupart sont complètement inconnus. Mais il y a 8 grands pères de l'Église. 4 de l'Église latine et 4 de l'Église grecque. 4 pères de l'Église latine, on les appelle les pères de l'Église latine parce qu'ils écrivaient en latin. Il y a Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand. Il y a 4 pères de l'Église grecque, on les appelle les pères grecs parce qu'ils écrivaient en grec. Saint Athanase, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze. Ils sont tellement importants. Je vous donne un exemple. Lorsque les 8 pères interprétaient le même passage de l'Évangile de la même façon, cette explication devenait infaillible. En principe, les pères ne sont pas infaillibles. Mais le pape couvrait à ce moment-là l'autorité des pères de son infaillibilité, et si les 8 pères expliquent l'évangile de la même façon, cet évangile de la même façon, certaines parties de l'évangile de la même façon, ça devient infaillible. Le monde moderne n'a que mépris pour ses pères. Certains des pères étaient des tout premiers pères de l'Église. Les premiers pères de l'Église, par exemple, ont suivi immédiatement les apôtres. Un des grands pères de l'Église était, par exemple, un disciple de Saint Jean, qui était déjà au deuxième siècle. Donc c'est des choses, des gens qui étaient très proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous lire l'enseignement du magistère sur les pères de l'Église. En vous lisant un paragraphe très court de la profession de foi officielle de l'Église catholique. Et la profession de foi qui a été écrite pour le concile de Trente. Le concile de Trente, c'est le grand concile du Moyen-Âge contre le protestantisme du XVIe siècle. Cette profession de foi est tellement importante, elle a été reprise aussi au Concile Vatican I. Mélangeons pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Bien entendu, ils ont complètement oublié de reprendre cette profession de foi au Concile Vatican II. Vatican I, c'est 1870, le pape Pie IX. Et voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. Ce texte, évidemment, est absolument infaillible. Voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. J'admets, et ce texte est tellement important, que tous les sous-diacres, tous les prêtres, tous les diacres, les évêques, et avant tous les professeurs, directeurs de séminaires, professeurs et directeurs d'universités catholiques, étaient obligés, en début d'année scolaire, de prononcer cette formule, solennellement devant l'évêque. Et moi, je l'ai prononcé plusieurs fois, avant mon sous-diaconat, avant mon diaconat, avant ma prêtrise. Et voilà ce qu'enseigne l'Église. J'admets de même la Sainte Écriture, selon le sens qu'a reconnu et que reconnaît la Sainte Église, notre mère à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des saintes écritures. Et jamais je ne la recevrai et ne l'interpréterai que dans le sens unanime des pères. Donc c'est clair. Donc les pères de l'Église ne sont pas, comme disent les modernes, des choses facultatives sont des choses obligatoires. L'enseignement des pères, explication des Écritures saintes, doit être suivi dans l'Église. Et donc, derrière le sens de l'Écriture sainte, évident, il y a un sens caché. Sinon, les gens ne comprennent rien. Prenez un texte très connu de l'Ancien Testament. Au moment du départ des Juifs, du peuple d'Israël, quand ils ont dû quitter l'Égypte, dans le pays dans lequel ils étaient maintenus comme esclaves. Qu'est-ce que Moïse a donné comme ordre? Vous allez prendre le sang d'un agneau et vous allez badigeonner le pourtour de votre porte d'entrée avec le sang de l'agneau. Les gens vont dire, qu'est-ce que c'est, truc complètement idiot, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que l'ange exterminateur allait venir cette nuit et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et donc, l'ange exterminateur devait connaître où étaient les maisons des Juifs. Donc les maisons des Juifs étaient protégées par le sang de l'agneau. Les modernes vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est complètement ridicule. C'est pas ridicule du tout. Ça représente quelque chose. Qu'est-ce que ça représente? Cette porte qui est protégée par le sang, c'est la porte de notre âme, qui est protégée par le sang de l'agneau, le sang de la messe. Donc de même que le sang de l'agneau au temps des Juifs allait protéger la maison en question du meurtre, de la mort du premier-né de la maison, de la même façon, le sang de la messe, notre Seigneur Jésus-Christ qui répand son sang pendant la Sainte Messe, protège l'âme de la mort spirituelle. Prenez un autre exemple. Un exemple incompréhensible si on passe pas par le sens mystique. Abraham, qui reçoit l'ordre de Dieu d'aller immoler son propre fils, Isaac. Alors voilà une idée. Et donc, et Dieu va envoyer Isaac pas n'importe où. Il envoie avec son fils, il donne l'ordre de prendre du bois pour le sacrifice, pour aller immoler son fils au mont Moria. Et ils arrivent au mont Moria, Abraham se prépare à immoler son fils, vous connaissez l'histoire, un ange a envoyé, est arrivé pour arrêter d'Abraham, pardon. Il n'a pas immolé son fils. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est que le mont Moria? Le mont Moria, c'est physiquement le mont Calvaire. Le mont du Calvaire. Parce qu'à l'époque, Jérusalem n'existait pas encore. C'est le mont Calvaire. Le bois du sacrifice porté par Isaac, c'est le bois de la croix. Donc de même que Dieu demande à Abraham le sacrifice de son fils au sommet du mont Calvaire, de la même façon, plusieurs milliers d'années après, Dieu va demander à son fils de mourir pour nous sur la croix au sommet du même mont. Vous voyez, donc il faut bien connaître ces choses-là, parce que c'est des choses pratiquement inconnues, et il faut avouer ce qui est, c'est pas facile. Au séminaire, nous avions des discussions très très orageuses entre séminaristes. On avait 14 nationalités différentes et je vous assure qu'on avait nos caractères. Bon, on a tous un caractère, assez forte personnalité, si on peut dire, vous le savez très bien, me concernant. Et on avait des discussions très 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 fortes entre nous. Et on avait des séminaristes qui refusaient l'interprétation traditionnelle des pères de l'Église. Mais tous ces séminaristes qui refusaient l'interprétation des pères de l'Église, comme par hasard, sont tous ceux qui sont partis pour fonder la Fraternité Saint-Pierre. Bizarre, hein? Alors, qu'est-ce qu'enseigne l'Église sur le sujet? Donc, il y a trois sens cachés. Il y a un sens historique, et il y a parfois un sens caché, pas toujours. Quand Dieu dit « Ceci est mon corps », il ne faut surtout pas interpréter ça de façon cachée, de façon mystique. Il y a véritablement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur l'autel par la transsubstantiation, changement de la substance du pain en substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin a repris ça, saint Thomas d'Aquin n'est pas un père de l'Église, c'est un docteur. Les pères de l'Église vont servir de fondation, il y a d'abord les apôtres, puis les pères de l'Église, puis les grands docteurs. Le plus grand des docteurs étant saint Thomas d'Aquin, 13e siècle. Et donc, les pères de l'Église enseignent qu'il y a trois sens cachés. Trois sens spirituels. Le sens allégorique, le sens tropologique et le sens anagogique. Bon. Sens allégorique, un passage de l'Ancien Testament représente le Nouveau Testament qui arrive. L'exemple classique qu'on donne toujours, c'est le mot Jérusalem, la ville de Jérusalem. Au sens historique, c'est la ville de Jérusalem. Au sens spirituel, au sens allégorique, Jérusalem représente l'Église catholique. Mais il y a un autre sens qu'on appelle le sens topologique ou sens moral, c'est pareil. Au sens moral, ça veut dire un passage de l'Évangile ou de l'Ancien Testament représente ce qu'on doit faire, nous. Dans ce cas-là, le mot Jérusalem représente l'âme, l'âme en état de grâce. Et enfin, le sens anagogique ou eschatologique, le sens anagogique, un texte de l'Écriture sainte représente ce qui se passera à la fin des temps. Et dans ce cas-là, le mot Jérusalem représente le ciel. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, qui va nous expliquer tout cela? Les pères de l'Église, justement. Et l'exemple typique, c'est le bon samaritain. Alors, si je prends le bon samaritain, vous allez dans une église moderne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous voyez? Le bon samaritain, il s'arrête pour soigner ce pauvre migrant qui est à moitié mort au bord du chemin. Donc, il faut accepter tous les migrants de la planète. Alléluia! Et on détruit notre pays. Mais c'est pas du tout comme ça que les pères de l'Église expliquent. Comment ils expliquent? Il y a plusieurs explications. Première explication, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Sens anthropologique. Jérusalem, ça représente l'âme en état de grâce. Donc l'homme qui descend de Jérusalem, c'est l'homme qui est en état de grâce à Jérusalem. Mais ça représente aussi le sens anagogique. Jérusalem, dans ce cas-là, représente le ciel. Donc quand je suis en état de grâce, j'ai le ciel dans mon âme. Donc cet homme qui descend de Jérusalem, qui va à Jéricho, Jéricho est représenté par la lune. La lune est le symbole de la ville de Jéricho. La lune change. On a pleine lune, trois quarts de lune, demi-lune, quart de lune, et plus de lune du tout. C'est le symbole du monde moderne qui change toutes les cinq minutes. De l'âme moderne qui change, qui n'est pas stable du tout. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est l'homme qui perd l'état de grâce et qui tombe dans le péché mortel, symbole de Jéricho. Donc il tombe de Jérusalem en Jéricho. Il passe du ciel dans son âme à l'enfer dans son âme. Donc il est à moitié mort au bord de la route. Il n'est pas mort, il est à moitié mort. C'est important de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est guérissable. Lorsque les anges ont commis leur révolte contre Dieu, c'était définitif. Parce qu'ils comprenaient les choses par intuition. Nous, on comprend les choses par abstraction, donc Dieu pardonne. À condition qu'on regrette. Et le bon samaritain qui arrive va verser l'eau, l'huile et le vin sur les plaies de ce moribond. Et ça, ça représente les grâces actuelles que Dieu donne à celui qui est tombé dans le péché mortel pour qu'il puisse commencer à regretter ses péchés. N'oubliez pas que lorsqu'on commet un péché mortel et qu'on a perdu le bon Dieu, on ne peut pas retrouver la grâce du bon Dieu sans une grâce particulière du bon Dieu qui va nous aider à regretter notre péché de façon surnaturelle. Ce n'est pas la grâce sanctifiante puisqu'on l'a perdue, pas le péché. C'est une grâce actuelle qui est représentée justement par l'huile et le vin qui est versé sur les plaies. Et ensuite, le bon samaritain va prendre le mourant et va le mettre sur sa propre monture. Sa propre monture. Ça représente quoi? L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âne représente l'humanité de notre Seigneur. Et donc on met le mourant sur la propre monture, ça représente déjà la contrition. Parce que la monture, c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ peut mourir sur la croix parce qu'il est homme. S'il n'était que Dieu, il ne pourrait pas mourir. Donc l'âne va porter le moribond, ça représente déjà la contrition des péchés, il va porter où? À l'auberge. Il va confier, le bon samaritain va confier ce mourant à l'aubergiste. L'aubergiste représente le prêtre. L'auberge représente la confessionnale. Et là, ça représente l'accusation des péchés. Et ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que fait le bon samaritain? Il donne deux deniers. Ça représente quoi les deux deniers? La dernière condition pour qu'on ait une bonne confession. Réparation. Rappelez-vous les trois conditions pour faire une bonne confession. Contrition, accusation, réparation. On donne les deux deniers pour payer pour le mourant qui n'est pas capable de payer par lui-même. Et à ce moment-là, vous voyez, la parabole du bon samaritain prend une dimension complètement différente. Autre explication des pères qui est très belle. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est aussi Adam, le premier homme. Adam était au paradis terrestre. Et puis, il désobéit à la loi du bon Dieu. Et en désobéissant à la loi du bon Dieu, il passe de Jérusalem à Jéricho. Il passe du paradis terrestre à l'enfer. C'est le monde d'aujourd'hui, littéralement. Il y a l'enfer qui existe évidemment véritablement, mais l'enfer, c'est aussi le monde d'aujourd'hui, c'est de plus en plus comme ça d'ailleurs. Tout en, attention, faire attention, pas dire que l'enfer est représenté par le monde d'aujourd'hui exclusivement. L'enfer est aussi qui un place, malheureusement, pour les damnés qui meurent un tas de péchés mortels. Ce sont deux choses différentes. Mais cet homme qui passe du paradis à Jéricho, c'est Adam qui désobéit au bon Dieu. Il reste à moitié mort. Pourquoi est-il à moitié mort sur le bord de la route? Il est à moitié mort sur le bord de la route parce que cet homme a perdu les dons préternaturels. Impassibilité, immortalité, intégrité, science infuse. Mais il garde l'intelligence, il garde la volonté, il garde l'irascible, il garde le concupiscible. Donc il est guérissable. Le bon samaritain qui s'arrête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme le représente ici la même chose, l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ va charger sur lui les péchés des autres. Nous ne voulons pas faire pénitence, notre Seigneur Jésus-Christ fait pénitence pour nous. On refuse de reconnaître nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ prend le poids de nos péchés sur lui. Et il va conduire l'homme, à ce moment-là, à l'auberge. Et dans ce cas-là, l'auberge ne représente plus le confessionnal, mais l'église en général. Et les deux deniers représentent la vertu de charité. Charité à l'égard du prochain, charité à l'égard de Dieu, donc deux deniers. Vous voyez, c'est comme ça que les pères de l'Église expliquent. Pour ceux qui sont intéressés par ces choses magnifiques, l'explication des pères de l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est pas très facile à lire. Donc je vous conseille beaucoup, pour ceux qui sont intéressés par là, aller chercher dans Don de Montléon. Don de Montléon est un bénédictin des années 50. Il fait un travail extraordinaire. Il n'a pas eu le temps de tout faire, malheureusement. Il a fait une bonne partie de l'Ancien Testament, petite partie du Nouveau Testament. Vous pouvez avoir les livres de Don de Montléon, qui sont méprisés ouvertement par les prêtres modernes. N'allez pas parler aux prêtres modernes de Don de Montléon, il va attraper une syncope tout de suite. Bon, parce que Don de Montléon est tout à fait traditionnel. Il explique le sens caché des Écritures Saintes, et les livres de Don de Montléon ont entièrement été réédités aujourd'hui, entre autres par les éditions Saint-Rémy. Je conseille beaucoup ces explications-là. Vous pouvez aller aussi, c'est un peu plus compliqué, dans la chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin avait lu tous les pères de l'Église. Tous les pères de l'Église grecque et tous les pères de l'Église de l'Église latine. Des centaines et des centaines de volumes. Et Saint Thomas d'Aquin avait reçu une grâce particulière du bon Dieu de retenir par cœur tout ce qu'il disait. Moi, j'oublie tout. Et lui, il n'oubliait rien du tout. Et de mémoire, il a pris chaque verset de l'Évangile, et de mémoire, il a pris chaque explication de tous les grands pères de l'Église pour expliquer chaque verset de l'Écriture sainte. Il en a fait un livre, important, plusieurs volumes, qui s'appelle La chaîne d'or, Catena Aurea. Alors, les chaînes d'or ont été rééditées en français. Là, vous pouvez de nouveau la voir, aussi dans les éditions Saint-Méry, ceux qui l'ont à Saint-Rémy, l'ont édité là-bas, dans près de Bordeaux. Et ces choses sont extraordinaires. C'est un peu compliqué. Alors, ce que j'ai fait aussi pour aider les gens, sur mon site dame-marie.net, vous avez aussi un cours complet. C'est le cours qui m'a donné le plus de travail. Vous avez bien plus de travail que le cours que je fais actuellement sur les actes du magistère. J'ai appris toutes ces œuvres-là pour faire un cours à partir de Saint Thomas d'Aquin, à partir de Saint Thomas d'Aquin, à partir aussi de Cornelius à Lapide, qui avait fait une traduction justement, qui avait repris déjà les pères de l'Église dans son explication des évangiles. Et je vous ai préparé un cours qui est tout mâché en quelque sorte, j'ai fait tout le travail pour vous justement avant, uniquement les quatre évangiles. Les quatre évangiles avec l'explication des pères de l'Église pour chaque verset de l'évangile qui vient justement de Saint Thomas d'Aquin. On va étudier, travailler. Bon, vous ne lancez pas là-dedans tout de suite. Hein. Ceux qui connaissent mal leur catéchisme, commencez par le catéchisme, s'il vous plaît. Commencez par le catéchisme, et après vous allez sur l'explication de la somme théologique de saint Thomas, si vous voulez, puis les explications d'exégèse. L'exégèse, c'est la science de l'Écriture sainte. Vous voyez, c'est capital pour vous donner l'amour de l'Église. Dans l'Église moderne, ils ont complètement perdu l'amour de l'Église. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est plus ce que c'est. Vous voyez, donc attention à penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. C'est un des moyens que moi-même j'utilise pour juger les prêtres que je ne connais pas. Il faut savoir ça. Le prêtre moderne ou le prêtre qui a les idées modernes, même s'il dit la messe traditionnelle, attention, parce que ça existe aussi. Vous le repérez entre autres par la haine du sens caché de l'Écriture sainte. La haine de saint Thomas d'Aquin et la haine des exercices de saint Ignace. Et si vous avez un prêtre qui a ces trois haines dans le cœur et qui les manifeste parce qu'il dit en chair, je peux vous assurer que même s'il est unakum, même s'il dit la messe traditionnelle, il a complètement perdu la forme en grande partie. Parce que l'esprit de saint Thomas d'Aquin, c'est l'esprit de l'Église. L'esprit de l'exercice de saint Ignace, c'est l'esprit de l'Église. L'esprit des pères de l'Église, c'est l'esprit de l'Église. Gardons l'esprit de l'Église. Et comme toutes ces choses sont absolument fondamentales, je m'excuse d'être un peu long aujourd'hui, je désobéis aux ordres de M. Bergoglio à Rome, qui a dit qu'il ne fallait pas que les sermons dépassent 6 minutes. C'est ça, il a dit ça. Il ne faut pas que les sermons dépassent 6 minutes. Donc vous allez en 6 minutes détruire la mauvaise influence qu'ont eu vos paroissiens pendant toute la semaine. Bon courage. C'est absolument impossible. Il a donné deux ordres. Pas de sermon de plus de 6 minutes. Et jamais, jamais, jamais au grand, jamais pour un prêtre de refuser l'absolution à un fidèle. Avec ça, on est sûr d'être complètement la foi. C'est-à-dire, vous vivez tranquillement avec la femme du voisin, vous oubliez de la rendre, eh bien, vous confessez, vous continuez, vous avez bien l'intention de conserver chez vous la femme du voisin, eh bien, il faut donner l'absolution. On détruit complètement la contrition, on détruit complètement la valeur de tous les sacrements. C'est pour ça qu'ils ont perdu la foi. Donc, accrochez-vous à ce que l'Église catholique a toujours pensé. Quand je suis rentré au séminaire, c'était un des ordres qu'on a reçus de Monseigneur que j'ai jamais oublié Monseigneur de le faire. Il disait, vos idées personnelles en matière de théologie, dehors. On n'en a rien à faire. Vous avez toute la bibliothèque, nous disait-il, pour vérifier l'enseignement qu'on vous donne ici. Il n'y a pas d'idées personnelles en matière de l'Église, en matière de choses qui touchent à l'Église. Souvent les gens me demandent, monsieur, mais qu'est-ce que vous pensez de tel passage de l'Écriture sainte? Qu'est-ce que j'en pense? Rien du tout. J'en pense ce que l'Église catholique pense. Et il ne faut pas demander, qu'est-ce que je pense de tel passage de l'Écriture sainte, mais qu'est-ce que l'Église pense de tel passage de l'Écriture sainte? Donc, qu'est-ce que les pères de l'Église pensent de tel passage de l'Écriture sainte? Voilà ce qu'il faut faire. Penser tel que l'Église a toujours pensé. Une grande règle de saint Ignace, sentire cum ecclesia, sentir avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles? Et on voit très bien que l'Église catholique a toujours enseigné les mêmes choses. Depuis Saint-Pierre, puis notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort du pape Pie XII, en 1958. On pense tel que l'Église catholique a toujours pensé. On ne pense pas tel qu'on veut penser. Et ça, on le voit très bien dans l'Église moderne. Je pense que... Les gens me demandent, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Eucharistie? Qu'est-ce que vous pensez de la confession? Surtout, est-ce que vous êtes d'accord avec notre Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il faut aller se confesser souvent? Ah ben non, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais vous prenez pour qui, monsieur? Qu'est-ce que vous pensez quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas, n'est pas baptisé, sera condamné? Ben moi, je pense que ce n'est pas très gentil de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dommage, notre Seigneur Jésus-Christ, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il raconte. Oui, donc, c'est ça l'esprit d'Église. Et c'est cet esprit d'Église qui a été détruit, mes bien chers frères, dans l'Église catholique. Dans l'Église moderne. Pas dans l'Église catholique, dans l'Église moderne. Voilà pourquoi il y a deux Églises. Il y a l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, et l'Église du monde. Soit l'Église avec les droits qui défend les droits de Dieu, soit l'Église qui défend les droits de M. Macron ou les droits de la République, c'est pareil. Ou les droits de la Révolution, c'est pareil. Donc, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, cet esprit d'Église. Pensez tel que l'Église a toujours pensé. Et vous passez par la Sainte Vierge, hein? Parce que celle qui protège notre âme, qui protège notre intelligence, qui nous aide justement à comprendre les choses telles que l'Église catholique les a toujours compris, toujours pensé, telles que l'Église catholique a toujours pensé, c'est notre Sainte Vierge Marie, elle est reine de l'Église, attention. Hein. Regina Ecclesiae, elle est reine de l'Église. Et c'est pour ça qu'elle est au pied de la croix. N'oubliez pas que la dernière chose qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir, c'est cette dernière parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous confie sa mère. Fils, dit-il à Saint Jean, voici votre mère. Pourquoi il parle à Saint Jean? Tous les pères de l'Église expliquent. Saint Jean qui vient d'être ordonné prêtre la veille, je dis saint, Saint Jean qui vient d'être consacré évêque quelques heures auparavant, représente l'Église. Donc la dernière chose que va faire notre Seigneur Jésus-Christ, de lui confier l'Église catholique, son corps mystique, à sa mère. Donc il faut aussi que nous aussi on passe par là. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu passer par la très sainte Vierge Marie. Il aurait pu nous donner les choses directement. J'y connais des catholiques qui se prétendaient catholiques, qui nous disaient, cette idée de passer toujours par la sainte Vierge, c'est complètement idiot. Je ne suis pas d'accord. Mais le bon Dieu ne va pas vous demander votre avis. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il va vous demander votre avis le jour de votre mort, le jour de notre mort. Ce jour-là, notre Seigneur Jésus-Christ va nous poser une question. Est-ce que tu étais d'accord avec les 10 commandements que je t'ai donnés? Est-ce que tu as suivi les 10 commandements que je t'ai donnés? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Et si quelqu'un dit à ce moment-là, moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas suivi ces 10 commandements, moi je préfère les commandements de la République. Mais monsieur, le ciel est fermé. Et si le ciel est fermé, il ne sait plus qu'en faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Demandons, mes bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie, qui est médiatrice de toutes les grâces, demandons cette grâce de savoir passer par elle. Si vous avez la dévotion à la très sainte Vierge Marie, je vous assure, mes bien chers frères, la véritable dévotion à la très sainte Vierge Marie, la vraie dévotion, attention, saint Louis-Marie Guillaume Montfort parle d'une vraie dévotion à Marie. Donc il y en a une fausse, hein. La vraie dévotion à Marie amène toujours à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va confier saint Jean à la très sainte Vierge Marie, et la très sainte Vierge Marie à saint Jean. Fils, voici votre mère. Alors passons par elle. Demandons à notre sainte Vierge Marie tous les jours, par votre chapelet, priez votre chapelet tous les jours. Surtout dans les temps difficiles qui sont les nôtres, et on aura sans doute des temps de plus en plus difficiles, il faut impérativement, mes bien chers frères, passer par la très sainte Vierge Marie pour pouvoir un jour tous nous retrouver au ciel. C'est ce que je vous souhaite à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc encore une fois, attention, à partir de jeudi prochain, les messes à Tanus, à Nouvelle-Chapelle, à 10h, faites dimanche et faites d'obligation. Les messes en semaine, on aura toujours lieu ici, ça j'ai oublié de dire. Donc les messes sont en semaine toujours ici, toujours aux mêmes heures. Messe à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, quand je suis là. Et messe à 10h le samedi, ici. Et à Tanus, dimanche et fête d'obligation à 10h.